Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les épreuves du nouveau baccalauréat débutent cette semaine pour les élèves de première. Épreuves critiquées par les syndicats d'enseignants et menacées de boycott par des professeurs. État des lieux des oppositions dans ce journal.
Vous comprendrez ensuite pourquoi les internes mèneront des actions ce lundi. Dans les hôpitaux, ils peuvent travailler jusqu'à 56 heures par semaine sans que cela ne soit reconnu par les gestionnaires des établissements.
L'espoir d'un cessez-le-feu en Libye. Hier, 11 dirigeants réunis à Berlin ont signé un texte en ce sens. Et ce n'était pas gagné, vous l'entendrez.
Et puis nous nous pencherons sur la nouvelle enquête d'Oxfam. Les milliardaires de la planète détiennent plus d'argent que 60% de l'humanité.
Après ce journal, revoilà Ségolène Royal, François Baroin, François Fillon sur la scène politico-médiatique. Frédéric Seyss se penchera sur cette impression de retour vers le futur. C'est le thème du billet politique ce matin. Il y aura des poursuites. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, prévient alors que de premières épreuves du baccalauréat ont été annulées ce week-end dans un lycée de Clermont-Ferrand. Une manifestation dans l'établissement a perturbé le déroulé de la matinée. C'est un scandale, selon Jean-Michel Blanquer, alors que la plupart des lycées débutent aujourd'hui les épreuves communes de contrôle continu. Elles sont appelées les E3C et comptent pour 30% de la note finale au bac de première. C'est contre ces nouvelles règles que se mobilisent certains enseignants. Manifestations ou boycotts, les syndicats toutefois ne sont pas d'accord sur la méthode à employer, Hakim Kasmi.
Si les syndicats sont divisés sur la grève pendant les E3C, tous reconnaissent que le dispositif n'est pas toujours prêt pour faire passer les examens dans de bonnes conditions, comme le SE-UNSA, qui demande le report des épreuves, mais qui n'appelle pas à la grève et au boycott des examens. Claire Crépère, sa secrétaire nationale.
Sur l'aspect pédagogique, les enseignants jugent qu'ils n'ont eu les sujets que trop tard pour bien préparer leurs élèves. Et en plus, ils sont assez déçus pour certaines disciplines de la qualité des sujets. Il ne leur semble pas que ces épreuves soient vraiment au service d'apprentissage de qualité pour leurs élèves.
Une contestation qui va au-delà de la réforme du baccalauréat, selon Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES, pour qui le malaise est bien plus profond chez les enseignants.
On l'a vu avec les suicides, on l'a vu avec la désaffection vis-à-vis des concours. Il y a un problème à la fois de gouvernance, de réformes menées au pas de charge, qui font que beaucoup d'enseignants ont l'impression de ne plus pouvoir faire leur métier correctement.
En attendant, les parents d'élèves en appellent au bon sens, afin que les épreuves puissent se dérouler normalement, pour ne pas encore plus stresser les élèves, qui doivent déjà découvrir un nouveau système pour lequel ils n'ont pas encore de repères. Gérard Pommier, président de la PEP, Fédération de parents d'élèves.
Nous comprenons tout à fait leur état d'esprit. Cela dit, la réforme, elle doit se mettre en place, et il faut que les épreuves se passent dans les meilleures conditions possibles, pour nos élèves.
Quant à ceux qui voudraient bloquer illégalement les examens, Jean-Michel Blanquer prévient qu'ils seront sanctionnés.
Et le ministère de l'Éducation nationale d'ailleurs donne déjà des exemples. L'an dernier, 50 enseignants avaient été sanctionnés par un avertissement ou un blâme. 500 autres ont été rappelés à l'ordre parce qu'ils avaient participé à la grève des correcteurs et des surveillants pendant le baccalauréat 2019. La vidéo dure 40 secondes. On y voit un jeune homme au sol à Paris, son visage en sang, et un policier qui le maintient et lui assène deux coups de poing au visage. C'était samedi lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Une enquête judiciaire a été ouverte, ainsi qu'une enquête administrative au sein de la police des polices, l'IGPN. La semaine dernière, l'exécutif avait pointé des comportements de policiers qui ne sont pas acceptables, avait dit le président Emmanuel Macron. Toutes les préfectures l'ont désormais reçue. La circulaire dite Castaner, critiquée ces derniers jours par la gauche comme par la droite. Elle demande en fait aux préfets de ne plus classer les candidats sans étiquette en fonction de leurs nuances politiques dans toutes les communes de moins de 9000 habitants. Cela concernera les élections municipales du printemps prochain. Jusque-là, ce classement permettait, selon certains, de donner une image du scrutin municipal sur le plan national. Toute l'opposition critique cette circulaire, mais le ministère de l'Intérieur persiste et signe Anne Fauquemberg.
Christophe Castaner assume, et d'autant plus que la demande a été faite par l'Association des maires ruraux, la MRF, dont les membres ne supportaient plus d'être classés par les préfets de manière discrétionnaire dans ces nuances politiques, en l'occurrence 17 catégories prédéfinies lors des élections de 2014. Alors que la plupart des maires des petites communes se vivent tout simplement sans étiquette, explique le vice-président de la MRF, John Billard.
On ne peut pas l'accepter parce que les communes rurales, dans 99,99% des cas, sont composés d'élus municipaux qui sont diversement, on va dire, avec des idées politiques complètement différentes. Et puis ça, on n'entre absolument pas dans l'engagement qu'on peut avoir dans un conseil municipal. C'était pas réaliste par rapport à ce qu'on vit réellement dans un conseil.
En revanche, les maires ruraux n'en avaient pas demandé tant. Ils avaient juste revendiqué de sortir de ce classement en nuance les communes sous la barre de 3500 habitants. Le gouvernement est monté jusqu'à 9000, un seuil démographique plus significatif en termes de droits électoraux. Se justifie-t-on au ministère de l'Intérieur. Sauf qu'avec ce seuil, 96% des communes seront exclues de la photographie des municipales, car plus de la majorité d'entre elles font moins de 9000 habitants. Les grandes villes où LREM a son socle électoral seront par contre privilégiées, ce qui fait réfléchir certains partis d'opposition à un recours en justice.
Et on apprend d'ailleurs que deux conseillers municipaux, les Républicains dans l'Ain, ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Elles étaient des milliers dans les rues de Paris hier pour dire non à la PMA pour toutes les femmes. 26 000 personnes ont défilé selon le cabinet de comptage Occurrence. Ces manifestants demandent le retrait du projet de loi bioéthique qui sera examiné par le Sénat demain. Les mouvements sociaux encore et la mobilisation cette fois contre la réforme des retraites. Elle marque le pas dans les transports. Après 47 jours de trafic perturbé par la grève, il y a aujourd'hui une large amélioration à la SNCF et à la RATP. La CGT, par ailleurs, doit se réunir aujourd'hui en Assemblée Générale avec une nouvelle mobilisation nationale prévue vendredi prochain, jour de la présentation du projet de loi retraite en Conseil des ministres. Eux se mobilisent davantage pour leur présent que pour leur avenir. À l'hôpital, les internes organisent aujourd'hui manifestations et piquets de grève devant plusieurs hôpitaux de France. Ils donnent ainsi une visibilité plus grande à leur grève illimitée, entamée il y a 10 jours maintenant. Les internes dénoncent leurs conditions de travail et notamment le nombre d'heures qu'ils sont contraints d'effectuer, Tara Schlegel.
C'est un combat de longue haleine. En 2012, l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes, avait dû porter l'affaire devant la Commission européenne pour contraindre la France à respecter les normes et à limiter le temps de travail à 48 heures par semaine. Mais même ces 48 heures sont largement dépassées, affirme ce même syndicat, car le décompte est mal fait. Léonard Corti, secrétaire général de l'ISNI.
On a un décompte qui est en demi-journée de notre temps de travail, c'est-à-dire qu'on est censé travailler 10 demi-journées, dont 9 à l'hôpital, par semaine. Et en fait, ces demi-journées, on n'a aucune connaissance de leur durée légale. Certains internes, avec leur demi-journée, par exemple d'après-midi, elles vont durer 7, 8, 9, 10 heures. Et du coup, ça va faire exploser le temps de travail réel de l'interne, mais sans forcément que cela apparaisse dans les chiffres.
La ministre Agnès Buzyn, 4 jours après le début de la grève, annonçait que les hôpitaux devaient vérifier le temps de travail des internes en commission médicale d'établissement et que des sanctions seraient prises. Or, c'est techniquement impossible, assure l'ISNI. Et d'ailleurs, le système fonctionne grâce à cette surcharge, accuse Léonard Corti.
On est face à une mauvaise volonté, on va dire, des pouvoirs publics, parce que si demain les pouvoirs publics se mettent à vraiment encadrer le temps de travail des internes, ça va être très compliqué de faire tourner les services hospitaliers comme ils le font aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de praticiens à l'hôpital et que c'est une manière de pallier au manque de personnel.
Le syndicat vient d'achever une enquête auprès de 7000 internes sur 27000. Ils disent travailler en moyenne 56 heures par semaine et avoir de plus en plus de mal à le supporter.
56 heures par semaine pour un salaire mensuel de 1580 euros, soit 7,60 euros de l'heure. C'est moins que le SMIC en France.
8h09 sur France Culture. Sur la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, de nouvelles violences ont éclaté hier à Beyrouth lors de manifestations contre le gouvernement.
Oui, des manifestations et des affrontements dans la foulée qui ont fait hier 90 blessés dans la capitale libanaise. Les forces anti-émeutes ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Et hier soir encore, des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans le centre-ville au cri de révolution en jetant des pierres et des pétards. Samedi, c'est-à-dire avant-hier déjà, 377 personnes avaient été blessées dans un contexte de crise politique et économique au Liban. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne pour mettre fin au conflit en Libye? Une conférence était organisée à Berlin hier avec 11 dirigeants. Il a été question de renforcer l'embargo sur les armes, d'interdire toute interférence militaire en Libye. Ces mesures avaient déjà été décidées il y a 9 ans maintenant, mais elles n'avaient pas été tenues jusque-là. Qu'importe, le moment d'hier a été salué, Ludovic Piétonu.
Nous avons fait en sorte que tous les participants parlent d'une seule voix, se félicite Angela Merkel lors de la conférence de presse finale qu'elle tient seule aux côtés d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et Rassam Salamé, son représentant spécial pour la Libye. Tous les participants s'engagent à respecter l'embargo sur les livraisons d'armes et à faire en sorte qu'un cessez-le-feu durable s'installe. Ce n'était pas chose gagnée d'avance, tant y compris au sein des Européens, entre Paris et Rome par exemple, les points de vue divergeaient, mais Angela Merkel estime que désormais les Européens, eux aussi, ont parlé d'une seule voix.
Toute la phase préparatoire a montré que les Européens se sont vraiment rapprochés. Nous avons eu un engagement vraiment incroyable. Que les Européens aient pu s'aligner dans un sens ou dans un autre a également contribué à notre succès. C'est pourquoi j'ai une bien meilleure impression sur ce point qu'il y a un ou deux ans.
En étant unie, la diplomatie européenne a su peser face à la Russie et la Turquie qui soutiennent chacun l'un des deux rivaux libyens. Il faudra que cet accord s'installe dans le temps et soit véritablement mis en œuvre. Cet accord de Berlin crée une commission intitulée 5 plus 5 qui oblige tous les participants à vérifier régulièrement le respect de la parole donnée.
Et je précise qu'en Libye, depuis la reprise des combats en avril l'année dernière, plus de 280 civils ont été tués, 2000 combattants également. Selon l'ONU, près de 170 000 habitants ont été déplacés. L'inquiétude en Chine et chez ses voisins. Pékin annonce un troisième décès dû à un mystérieux virus. Au moins 140 cas ont été recensés dans le pays. Et ce matin, après la Thaïlande et le Japon, c'est la Corée du Sud qui confirme un premier cas sur son sol. Ce mystérieux virus ressemblerait au SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Hautement contagieux, ce virus avait tué quelque 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong entre 2002 et 2003. Partons maintenant en Angola. C'est dans ce pays qu'a fait fortune Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président angolais. C'est là aussi qu'a enquêté le consortium international des journalistes d'investigation. Plus d'une centaine de journalistes du Monde, de la BBC ou du New York Times. Tous ont décortiqué les montages financiers d'Isabel dos Santos et de son époux. Ils ont en fait siphonné les caisses du pays, Marie-Pierre Véraud.
Isabel dos Santos pèse plus de 2 milliards de dollars, peut-être 3, et pour gouverner un empire qui s'étend des télécommunications au pétrole, en passant par la banque, les diamants, l'immobilier, les télécoms ou encore les médias, celle que l'on surnomme la princesse en Angola a méthodiquement pillé son pays. Le consortium de journalistes a épluché quelque 700 000 documents et mis au jour un système complexe et opaque pour détourner les fonds publics vers ses propres entreprises. Prêts à des sociétés écrans jamais remboursées, détournement de dividendes, rachat de parts à des prix en dessous du marché, les entreprises publiques de pétrole, des télécoms ou de diamants auraient ainsi été dépouillées de plusieurs centaines de millions de dollars. Les avocats du couple dénoncent une chasse aux sorcières menée par le nouveau président angolais. Isabel dos Santos est d'ailleurs poursuivie par la justice de son pays, l'Angola dont, selon la Banque mondiale, 2/3 de la population survit avec moins de 2 dollars par jour.
L'extrême pauvreté d'une population face à une personne qui s'enrichit à outrance, voilà qui fait écho à la nouvelle enquête annuelle de l'Oxfam publiée ce matin. L'ONG rappelle que 1% des personnes les plus riches de la planète possèdent deux fois plus que 90% de la population totale. La tendance décrite dans ce rapport ne change pas, les inégalités vont grandissantes. Exemple visuel à l'appui, Marie Viennot.
Si chaque personne s'asseyait sur ses richesses sous la forme de billets de 100 dollars empilés les uns sur les autres, la plus grande partie de l'humanité serait assise sur le sol. Une personne de la classe moyenne vivant dans un pays riche serait assise à la hauteur d'une chaise. Les deux hommes les plus riches du monde, eux, se retrouveraient dans l'espace. À chaque rapport, Oxfam cherche de nouvelles façons d'illustrer les inégalités de patrimoine et de revenus. Des inégalités qui, en France, se sont accrues selon les données recensées par l'ONG. Ainsi, l'indice de Gini, qui mesure l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, a augmenté en 2018 selon l'INSEE. Il est à 0,294, alors que le Fonds monétaire international, cité dans le rapport, estime qu'au-dessus de 0,27, les inégalités sont néfastes pour la croissance. Autre chiffre parlant, il y a 2 ans, 8 milliardaires français possédaient l'équivalent de 30% de la population française. Aujourd'hui, 7 suffisent, un de moins. Les milliardaires français sont d'ailleurs ceux dont la richesse a le plus augmenté dans le monde, soulève Oxfam, citant un article publié par Bloomberg, une agence de presse qui a créé un index des milliardaires mondiaux. En France, la moitié des 41 milliardaires français sont des héritiers, remarque Oxfam, seulement 5 des femmes. L'inégalité de richesse entre les genres est d'ailleurs l'un des axes nouveaux de ce rapport qui plaide pour qu'en bas de l'échelle, le travail à dominance féminine, notamment dans les métiers du soin, soit mieux rémunéré.
La question de la répartition de la richesse posée donc ce matin par Oxfam alors que s'ouvre aujourd'hui la 3e édition du sommet Choose France à Versailles pour pousser les plus riches à investir en France, alors aussi que débutera demain à Davos le Forum économique mondial. Le temps ce lundi sera globalement ensoleillé malgré quelques nuages bas près de la Méditerranée et sur l'est du pays. Attention au verglas à partir de ce soir sur les Pyrénées. Pour les températures, Météo France prévoit moins 1 à Clermont-Ferrand, 1 degré à Lille ce matin, 2 degrés à Strasbourg, Lyon et Bayonne, 3 à Paris et Bordeaux, 10 degrés dans la matinée à Nice.
Merci Clara Lecoq-Réal.